Nous allons commencer une étude de la lettre de Paul aux Éphésiens. Après avoir survolé la vie de David, le roi David, maintenant nous passons au Nouveau Testament et cette épître de Paul à l'église aux saints qui sont à Éphèse. Avant de lire notre premier passage, en chapitre 1, j'aimerais donner quelques mots d'introduction à cette épître. Éphèse était une grande ville située en ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'est une des villes où l'apôtre Paul est resté le plus longtemps pour avoir un ministère important, au moins 3 ans, où il a pu former des responsables, enseigner constamment. Et donc, ça fait que cette église a eu un impact régional très important et a pu commencer d'autres églises. Tout cela, bien sûr, a inspiré le nom de notre petite formation les samedis matins, Éphèse. Et en plus, dans ce qui s'est passé à Éphèse et dans la région, nous avons un des meilleurs aperçus dans le Nouveau Testament d'un réseau d'églises, une union d'églises, si vous voulez, qui a pu se multiplier et faire connaître l'Évangile dans toute la région. Si vous vous souvenez, le message du dimanche dernier de notre ami Stéphane portait sur une des 7 églises dans l'Apocalypse, et en fait c'est toutes ces églises, les 7 églises de l'Apocalypse se trouvent autour d'Éphèse et probablement elles ont été implantées à partir de l'église mère qui était Éphèse. Et déjà à l'époque Paul, il y avait les églises de Colosse, de Laodicée, d'Hierapolis qui étaient en lien avec l'église d'Éphèse. Alors je vous donne un petit carte pour voir un peu le plan Éphèse, les églises de l'Apocalypse, mais d'autres villes importantes. Tout ça pour dire que cette lettre probablement a été destinée à circuler parmi ce réseau d'églises. Dans pas mal de manuscrits, il manque la petite phrase « au sein à Éphèse ». Il y a beaucoup qui l'ont, mais d'autres l'ont pas parce que certainement c'était des copies qui étaient destinées à circuler dans d'autres églises. Aujourd'hui, c'est facile de faire un mail groupé. Mais à l'époque, c'était moins facile, et on sait que Paul encourageait les églises, notamment à s'échanger des lettres. Donc il va dire à une église à Colosse, ben, vous passez votre lettre à Laodicée et vous récupérez la lettre que je leur ai envoyée. Donc probablement, très probablement, cette lettre était destinée à circuler dans plusieurs églises. Et ça va nous aider à comprendre un peu le contenu de cette lettre, puisque cette lettre n'aborde pas un problème spécifique qui se trouve à Éphèse. Cette lettre offre plutôt une vision globale de la vie chrétienne, une vue d'ensemble, et notamment la vie chrétienne en collectivité, c'est-à-dire l'Église. Et cette lettre est magnifique parce que c'est vraiment un condensé de la pensée de l'apôtre Paul. On a appelé Éphésiens cette lettre la Suisse de la Bible, puisque c'est comme le pays, c'est petit, mais une grande richesse, une grande influence finalement dans l'histoire de l'Europe. Et donc cette lettre, c'est petit, mais une grande richesse, une grande influence. Et en parlant de la Suisse en plus, j'ai appris cette semaine que cette épître, c'était l'épître préférée de Jean Calvin, qui était une raison de plus à l'étudier. Donc je vous propose une première lecture ce matin, chapitre 1, versets 1 à 12. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans ces versets, Paul nous met devant le grand canevas du plan de Dieu pour les âges. Il nous fait un survol du dessein de Dieu pour l'univers. Alors, ce passage est un peu notoire puisque on y trouve la phrase la plus longue du Nouveau Testament, semble-t-il. À l'époque, il n'y avait pas la ponctuation comme nous, les points et des virgules, mais visiblement, Paul enchaîne des phrases pour faire une grande pensée qui parcourt du verset 3 au verset 14. Donc, toute cette phrase, c'est un peu comme la célèbre tapisserie de Bayeux, de cette broderie longue de 70 mètres qui raconte l'histoire de Guillaume le Conquérant. Et c'est un héritage riche de la France, mais c'est un peu comme ça. Paul nous fait la visite guidée de tout ce plan, ce canevas du plan de Dieu. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance parfois, quand je suis dans un musée, à ne pas payer le supplément pour avoir le visite guidée, craignant que ça risque d'être un peu ennuyeux avec les enfants, c'est un peu compliqué parfois. Mais je dois avouer que parfois c'est vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui explique et qui vous montre le symbolisme, l'histoire, la raison, le pourquoi de la chose, le pourquoi qui a motivé l'artiste ou l'architecte à concevoir son ouvrage. Alors ce matin, on a le privilège d'avoir un guide qui n'est pas ennuyeux, c'est l'apôtre Paul. Il est passionné par son sujet. Et il va nous montrer tout ce que Dieu a fait, il va nous montrer les motivations derrière son plan et ce qu'il envisage, le pourquoi. Et ce matin, notamment, j'aimerais attirer votre attention sur ce que je crois être une phrase clé de cette épître qui introduit un thème pour toute la suite. On le trouve dans le verset 10. Et là, nous apprenons que le dessein de Dieu, c'est, il dit, selon Paul, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors ce matin, j'aimerais parler de la grande réunion de toutes choses, la grande réunion cosmique qui est le dessein de Dieu et voir en quoi ça peut nous interpeller et nous attirer vers la beauté du message chrétien. Alors pour comprendre cette grande réunion, voyons tout d'abord telle était la résolution de Dieu, l'intention de Dieu, et ensuite on verra les bénédictions de Dieu pour arriver à cette fin. Je m'inspire des mots mêmes de Paul, la résolution de Dieu et les bénédictions de Dieu pour cela. Parlons tout d'abord de cette résolution de Dieu qui apparaît ici. Nous apprenons dans ce passage que la destinée de l'univers, selon l'intention de Dieu, selon la résolution de Dieu, la destinée de l'univers, c'est justement d'être un univers, quelque chose d'uni, où des choses sont réunies. Finalement, c'est ce qui ressort dans cette phrase. Si on devait simplifier la grande phrase qui commence en verset 3 et qui va jusqu'à verset 14, eh bien, Paul dit « Béni soit Dieu qui a fait un tas de choses, qui a fait plein de choses pour mettre en exécution un dessein. » Et ce dessein, il nous le dit en verset 9 et 10, c'est de réunir toutes choses en Christ. Alors, il faut savoir que c'était déjà un souci à l'époque, un souci d'unité universelle. Tous les philosophes de l'époque, les philosophes grecs notamment, cherchaient un principe maître, un principe unificateur pour comprendre l'univers et pour trouver sa place dans la vie et dans l'univers. Tellement c'était une recherche importante, une quête pour ces philosophes qu'ils avaient un nom, un terme particulier pour ce principe unificateur. Ils parlaient du logos, c'était un principe, une parole, une verbe qui puisse tout unir. Et effectivement, les apôtres arrivent, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean qui ont dit, qui ont annoncé que ce principe unificateur, c'est Jésus-Christ. Et selon Luc Ferry, un philosophe, dans son livre « Apprendre à vivre », il dit que la grande force du message chrétien, la raison que le message chrétien s'est tellement répandu, c'est que les premiers chrétiens, les apôtres, annonçaient de manière crédible quel était ce principe unificateur. Et ce n'était pas juste un principe abstrait, ce n'était pas juste une idée, c'était une personne Jésus-Christ en plus qui nous aimait et qui nous permettait, nous en tant que personne, de trouver notre place et d'être réunis à toute chose. Mais vous savez, ce n'est pas une quête ancienne, ce n'est pas limité à une quête ancienne. Encore aujourd'hui, il y a quelque chose en nous qui souhaite voir de l'harmonie, de l'unité dans notre vie, dans notre monde. Alors qu'en réalité, ce que nous voyons souvent, c'est la dissonance, c'est la séparation. Notre vie est faite d'aliénation, d'incohérence parfois, de séparation, des choses qui sont difficiles à vivre. J'ai pensé à plusieurs choses qui ne sont pas réunies, que j'aimerais pourtant voir réunies dans ce monde, dans cet univers. Tout d'abord, le ciel et la terre. Ce n'est pas tout à fait uni. Les choses invisibles et les choses visibles. On dit que les anges existent, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on est bien réunis avec eux. C'est vrai que si les anges existent, j'aimerais bien leur serrer la main, j'aimerais bien chanter avec eux dans une chorale, j'aimerais bien qu'eux dirigent notre louange, un culte un jour. C'est, comme disait Nathan ce matin, ce n'est peut-être pas encore le cas, mais on aimerait bien, on rêve d'être unis ensemble avec eux, quelque part. Et puis encore ici-bas, il y a quand même beaucoup de séparations, des choses qui ne sont pas unies ou réunies, notamment des ethnies, des peuples qui sont... On voit notre monde et on dit, on aspire à plus d'unité, d'harmonie entre les races, entre les ethnies. Il y a des pays qui ne sont pas unis, donc source de conflits, de guerres, de violences. On parle des Nations Unies, mais les Nations Unies ne sont pas unies que ça, si vous regardez bien l'actualité. Les États-Unis ne sont pas si unis que ça. L'Union européenne, c'est une union, mais encore, ce n'est pas vraiment uni. Vous voyez à quel point notre existence est faite de choses qui, finalement, au fond de nous, on se dit que ça devrait être réuni dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la stabilité, mais ce n'est pas le cas. En plus, Éphèse, la ville d'Éphèse, c'était la quatrième ville de l'Empire. Il y avait une population de 250 000 à l'époque, ce qui était énorme. C'était un grand port, la ville d'Éphèse, alors qu'aujourd'hui, le port a été ensablé, les sables avec le temps ont couvert tout ça. Donc aujourd'hui, les vestiges d'Éphèse se trouvent à quelques kilomètres à l'intérieur de la côte. Et vous pouvez encore visiter tout ça, mais ce n'est plus sur la côte. Mais à l'époque, c'était un port. Donc, il faut imaginer une ville comme Marseille, de cette de grandeur, avec le commerce et tout ça. Et voilà, vivre tout ça. Comment réunir tout le monde, toutes les choses dans une telle ville de manière stable, cohérente, paisible, sage? C'est encore le défi de nos jours. Et puis, il y a des choses qui nous touchent de plus près, qui ne sont pas réunies, qui ne sont pas unies. Certains couples, certains foyers ne sont pas unis et pourtant on sait au fond qu'ils devraient l'être. Pour ma part, j'aimerais bien être réuni avec l'enfant que nous venons de perdre. Alors ce projet divin d'une grande réunion cosmique de toutes choses, y compris Lucien, me parle plus que jamais. J'ai ramené un jour de Paris une petite tasse pour une de mes filles. Ce qui devait arriver arriva. La tasse tombée sur le carrelage, et là, c'est cassé en 1000 morceaux. Alors, les filles sont venues me voir en grande larmes, et après, c'est, papa, tu vas me recoller tout ça. Je le mets sur ton, dans le garage, sur ton table de travail. Alors, je vais bien quand c'est une fissure nette, je veux bien essayer de recoller ça, mais là, c'était 1000 morceaux, il y a des petits morceaux qui manquent, qui sont partis dans la poubelle. Ça, en fait, c'est le problème de notre vie, de notre univers. On voit bien que ça devait être un tout cohérent, mais aujourd'hui, on voit des morceaux fissurés, et puis il y a des morceaux qui manquent. Il y a des pièces manquantes du puzzle pour concevoir comment intégrer l'ensemble de notre vie, même notre quotidien, comment intégrer ma foi, mon travail, ma famille, mon temps, mes expériences, les événements tragiques de ma vie, ainsi que les événements heureux, comment former un tout dans tout ça. Mais la résolution de Dieu, selon ce passage, c'est de réunir toutes choses. Ça, c'est la destinée, le dessein bienveillant de Dieu, c'est de réunir toutes choses. Et au fond, c'est notre aspiration à tous, de voir toutes choses réunies dans une beauté, dans une gloire, dans un équilibre. Voilà ce que Dieu dit. Il va réunir toutes choses. Et puis, cette pensée est importante, je pense, pour Paul, parce qu'il le répète quasiment dans les mêmes termes dans sa lettre aux Colossiens. Il va dire, oui, Jésus, Dieu a voulu par lui réconcilier toutes choses, tant les choses dans les cieux que les choses sur la terre. Alors, bien sûr, on se pose la question, est-ce que c'est toutes choses? Est-ce que cela inclut Satan, les démons, les incrédules? Il dit bien, toutes choses sont réunies en Christ. Comment comprendre ça? Mais nous croyons que même ces choses-là vont trouver leur juste place dans l'univers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais Satan, les démons, les incrédules vont trouver leur juste place dans l'univers qui est l'enfer. Mais c'est ainsi que Dieu va réussir à exterminer le mal, à s'en débarrasser, à le reléguer dans les ténèbres. Alors toutes les choses qui sont hostiles à son plan aujourd'hui, eh bien, ils seront réduites au silence, ils seront réduites à l'impuissance. Et un jour, on pourrait dire, en effet, oui, toutes choses sont réunies en Christ, puisque le mal sera banni, sera exclu. Voilà donc la résolution de Dieu, voilà son intention pour l'univers, pour le cosmos, pour le monde. Et c'est un beau projet. Mais dans tout ça, la séparation la plus importante, la cassure la plus grave, c'est celle qui existe entre Dieu et l'homme. C'est cette cassure qui a désordonné l'ensemble. C'est cette cassure qui crée les aliénations, les conflits ici-bas. C'est ce qui empêche aujourd'hui cette grande réunion entre les pays, entre les ethnies, entre le ciel et la terre, entre les lieux célestes, les lieux terrestres. Cette harmonie, cette intégration que nous souhaitons, eh bien, ça a été cassé par le péché. Alors, pour que tout soit réuni, il va falloir que tout soit réuni en Christ. Il va falloir que cette séparation entre Dieu et l'homme soit réparée. Si jamais ça va marcher, c'est la seule chose qui peut tenir l'ensemble. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu, le Créateur. Les gens cherchent d'autres idées, d'autres philosophies, d'autres techniques pour unir les gens, mais ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas un retour au Créateur, ce n'est pas un retour. Ça ne répare pas la séparation entre Dieu et l'homme. Donc Paul va nous montrer que enfin le dessein qui nous plaît finalement de voir un univers uni, eh bien il va nous montrer dans ce passage que ça devient possible par l'initiative de Dieu, et Dieu a les moyens pour enfin réussir ce plan de réunir toutes choses, et pour ça nous pouvons voir les bénédictions de Dieu. Pour réussir son dessein, Dieu a déversé toutes sortes de bénédictions spirituelles, dit verset 3, pour réaliser ce plan de réconcilier, réunir toutes choses. Et donc Paul commence son épître en disant « Béni soit Dieu et Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et en fait, ce qui suit, nous croyons, c'est une liste de ces bénédictions spirituelles. Il bénit Dieu pour toutes ces bénédictions spirituelles, et les versets suivants, il énumère quelles seraient ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes auxquels il pense. Et donc, dans ces versets suivants, nous avons des choses que Dieu a faites dans son amour pour défaire la séparation qui existe entre lui et nous, hein, et pour pouvoir garantir qu'à la fin, toutes choses seront effectivement réunies en Christ. Rien ne peut entraver à ce projet. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont fait équipe ensemble pour prodiguer ces bénédictions dans leur résolution de unir toutes choses. Alors bien sûr, les théologiens aiment donner des noms à ces bénédictions spirituelles de chaque verset. Verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc on parle d'élection. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, on parle de prédestination, d'adoption. Et puis ensuite, il parle de la rédemption, verset 7, avec quelques détails qui incluent le pardon des péchés, la grâce. Et puis plus tard, verset 13, des versets que nous n'avons pas lus, mais il envisage le jour où les chrétiens ont entendu l'évangile et ont pu exercer leur foi, c'est la conversion. Et puis il évoque, on va dire, la bénédiction spirituelle par excellence, qui est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui est un gage aussi de ce qui va venir. Voilà un peu toutes ces bénédictions spirituelles, l'idée de l'élection, que Dieu avait déjà conçu ce plan avant la fondation du monde. C'est ça qui est tellement fort et rassurant pour nous, que c'était avant la fondation du monde qu'il avait en projet ces choses. Et puis la prédestination, il dirige tous les événements pour faire marcher ce plan. En ce moment, chez nous les enfants, il y avait une question qui nous ont posé à plusieurs reprises. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, est-ce que toi et maman vous seriez rencontrés? Alors, finalement, peut-être la réponse est non. On peut remonter loin, j'imagine, mais parfois je réponds, mais mes deux grands-parents, ils se sont connus pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là, à cette époque, ils se sont mariés et qu'ils ont eu des enfants. Donc, s'il n'y avait pas la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils se seraient rencontrés? Est-ce qu'ils seraient mariés à cette époque? Est-ce qu'ils auraient eu les mêmes enfants? Mais une guerre mondiale, c'est l'effet de la chute. Alors, effectivement, l'univers, tous ces événements, comment comprendre? Est-ce que vous seriez là ce matin si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo? Si on commence à creuser tous ces détails, on se perd en quelque sorte. Donc, heureusement, il y a un Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Si vous êtes là, c'est parce qu'il avait sa main sur tous les événements jusqu'à là. Et ça ne marche pas de dire qu'il avait sa main sur les événements bien et heureux, mais pas sa main sur les événements malheureux ou mal. Parce que finalement, tout concorde. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mais c'est une bonne nouvelle parce que tout nous a conduit à Christ, à être adopté. Donc, c'est encore rassurant pour nous. Et puis, la rédemption, c'est l'idée que Christ a payé le prix de nos péchés. Il nous a rachetés. Nous étions esclaves. Nous étions condamnés. Mais il a payé à notre place. Un peu comme Yatan nous a rappelé dans le concert. Christ a payé. C'est ça, la rédemption. Et puis, la conversion évoque le jour où nous rencontrons ça et nous comprenons l'Évangile et nous tournons vers Jésus-Christ. Et puis, le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu qui Paul dit, c'est un sceau, c'est comme des arts, c'est un gage de ce qui va venir. Aujourd'hui, il habite en nous, mais c'est le garantie qu'un jour, nous allons toucher au plein héritage. Donc, rapidement, j'ai fait un peu le tour des bénédictions spirituelles dans ce passage. Bien sûr, chacune pourrait faire l'objet d'une étude approfondie, une prédication. Ce serait peut-être le cas, mais aujourd'hui j'aimerais me contenter juste de quelques remarques générales si on prend l'ensemble de ces bénédictions spirituelles. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que d'une manière générale, c'est à peu près chronologique. Il commence avec l'élection avant la fondation du monde et termine avec le Saint-Esprit qui garantit la rédemption à venir, le futur, donc il y a un regard vers l'avenir. Donc le plan de Dieu passe par de l'éternité passée et va jusqu'à l'éternité future. Et chaque étape garantit qu'aucun obstacle pourrait empêcher la grande réunion finale où toutes choses sont réunies en Jésus-Christ. Donc effectivement, cette liste suit globalement un ordre logique, un peu comme le canevas, la tapisserie de Bayeux, il y a quand même un ordre. Mais cette liste de bénédictions montre aussi, on pourrait dire, différentes facettes de notre salut, différentes manières de parler de ce que Dieu a fait pour nous avoir avec lui. Et c'est ça aussi la richesse de toutes ces bénédictions spirituelles dont Paul fait la liste. Parfois c'est bien de se dire, oui, le salut est comme une adoption. Il y a toute une image riche dans l'adoption. Le salut est comme une adoption. Une autre facette, c'est de dire le salut est comme une rédemption, quelqu'un qui a payé pour nous avoir. Ou bien une autre facette, le salut est comme un legs garanti par une alliance, un testament. Nous faisons de nous des héritiers, pas juste une maison, pas juste un compte bancaire, mais de tout. Et c'est des très belles images pour comprendre notre salut, comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Une adoption, une rédemption, un héritage. Et la bonne nouvelle, c'est que le chrétien, le plus jeune dans sa foi, tout ceci s'applique à lui, toute cette grandeur, toute cette gloire, tous ces termes exaltés, adoption, élection, prédestination, rédemption. Le chrétien, tout chrétien, en bénéficie pleinement. J'ai lu un commentaire sur Éphésiens qui disait « Éphésiens, c'est un amoncellement de mots exaltés, de phrases compliquées et longues, mais finalement qui décrivent le christianisme le plus basique, le plus simple. » Donc, c'est le cas ici, versets 3 à 14, c'est grandiose, mais ça décrit l'état de tout chrétien, même celui qui vient de se donner à Jésus-Christ. Tout ça pour dire qu'il n'y aura pas un examen oral au ciel, une dissertation sur les termes d'Éphésiens 1 pour y entrer. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Un enfant de 2 ans qui vient d'être adopté, il ne connaît pas parfaitement les lois qui encadrent l'adoption en France. Il ne sait pas tout le travail en amont donné par les parents. Il ne sait pas le coût que ça représentait par les parents. Et pourtant, il est pleinement enfant. Il est adopté. Il est un enfant. Un jour, il va peut-être découvrir tout ce que ça représente pour lui, qui est censé augmenter sa reconnaissance envers ses parents. Mais à 2 ans, même s'il ne comprend pas tout, il est un enfant pleinement adopté. Il en est de même avec toutes ses bénédictions spirituelles. Le chrétien en bénéficie, même s'il ne mesure pas toute la richesse, ou s'il ne sait pas tout expliquer. Il y a des gens qui n'aiment pas trop l'idée de l'élection, qui sont pourtant élus. Et un jour, ils vont être réconciliés avec cette doctrine. Bonne nouvelle. Le salut est par grâce, non pas par connaissance doctrinale. Dieu nous sauve par grâce dans son amour, pas parce qu'on sait expliquer toute cette liste. J'aimerais aussi dire que l'ensemble, chaque facette, chaque étape dans le plan de Dieu, chaque bénédiction spirituelle, en fait, si Paul en parle, c'est pour nous convaincre, les enfants de Dieu, à quel point nous sommes aimés. C'est pour nous rassurer de toutes sortes de manières. Donc le salut, c'est toutes ces facettes, et parfois chaque facette nous encourage un peu plus ou nous rassure à des moments différents de notre vie. Et ces bénédictions, ces termes peuvent nous rassurer de différentes manières, à différents moments. Peut-être certaines personnes souffrent dans la vie d'un rejet, d'être rejetées. Eh bien, la notion d'adoption est tellement une consolation pour eux, de savoir que Dieu les a adoptés dans sa famille. Il va les aimer parfaitement tant que ses enfants adoptés. Quelqu'un qui souffre d'un sentiment de culpabilité, eh bien, c'est la facette de rédemption, qu'il y a ce pardon des péchés, une grâce complète. Ça peut le rassurer. Quelqu'un qui a tendance de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, se soucier de toute chose, cette idée que Dieu prédestine, que Dieu contrôle toute chose, que Dieu opère toute chose selon sa volonté qui est sage et parfaite, ça c'est aussi pour nous rassurer. Récemment, nous avons eu l'impression, notre famille, d'être inondés d'amour et d'affection de votre part. Il y a des moments où on aurait presque envie de dire « c'est trop, on ne mérite pas tout ça ». Mais c'est justement l'impression que Paul veut donner à tout chrétien par cette liste, cette phrase qui part de verset 3 jusqu'à verset 14. Il veut que le chrétien dise « oui, c'est trop, mais tel est notre Dieu. Dieu est un trop plein de grâce. » Comme les phrases, il dit, verset 8, « il répand abondamment sur nous, et puis par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Voilà, Dieu déverse tout ça constamment. Donc c'est l'ensemble de cette liste, que c'est quand on additionne toutes ces bénédictions qu'on est censé dire, oula, c'est trop. Mais c'est ce que Dieu veut. Il veut nous faire comprendre que sa grâce, c'est toujours se déverse abondamment par tout ce qu'il a fait pour nous, en partant de l'éternité passée, en allant jusqu'à l'éternité future. Tout ça pour qu'on puisse célébrer les gloires de sa grâce. Comme c'est dit à plusieurs reprises, Dieu a conçu ce plan de réunir toutes choses en Christ, et puis sagement, il a mis en place les bénédictions, les étapes nécessaires pour y arriver, et rien n'échappe à sa pensée. Il a pris tout en compte, y compris nos péchés, notre rébellion, et notre éloignement, et il a pris en compte les ennemis, il a pris en compte, et il a réussi parfaitement sa résolution d'origine, son dessein, par ses bénédictions. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous montrer un peu où Paul veut en venir, un petit aperçu de la suite de l'épître, pour que ça devienne un peu concret pour nous les chrétiens, nous les églises. On a vu ce matin que le grand projet de Dieu, c'est cette grande réunion, cette belle et grande réunion de toutes choses. Et si la destinée finale, c'est de voir toutes choses réunies en Christ, si Dieu a fait tout le nécessaire pour arriver à cette unité cosmique, et c'est ça qui le glorifie, eh bien déjà maintenant, l'Église glorifie Jésus-Christ en manifestant un aperçu de cette unité. Et ça va être tout le suite de l'Épître. En chapitre 2, Paul va montrer que grâce à ce que Dieu a fait dans ce dessein, et bien maintenant les juifs et les païens, les ethnies différentes, sont unies, forment un seul corps. Ça va être sa pensée en fin chapitre 2, il va poursuivre en chapitre 3 en disant, c'est mon ministère finalement d'annoncer ce message qui seul peut réunir les païens et les juifs dans un seul corps. Donc cette unité entre juifs et païens, qui est déjà possible ici-bas, est un reflet de ce grand projet de réunir toutes choses en Christ. Ça c'est chapitre 2 et 3. Et puis chapitre 4, Paul va nous enseigner l'unité de l'esprit dans l'Église. Il va enseigner aux chrétiens quel comportement avoir pour préserver l'unité de l'esprit dans l'Église. Donc il va dire concrètement, ne mentez pas les uns aux autres, ne restez pas avec l'amertume dans votre cœur sur vos frères et sœurs. Justement, ça reflète mal le grand projet de Dieu d'unir, de réunir toutes choses en Christ. Si nous sommes unis en Christ dans ce grand plan cosmique, eh bien il va nous réunir dans des églises, dans des assemblées pour vivre notre foi ensemble. En chapitre 5, il va parler d'unité dans le couple, dans le foyer, entre mari et femme, époux et épouse. Et puis, il va déborder chapitre 6, unité dans le foyer, entre parents et enfants. Et là encore, il va nous, avec les mêmes vérités de l'Évangile, il va dire, puisque le destiné c'est une grande réunion, faites-le maintenant, vous avez des moyens pour être unis. Et puis, en chapitre 6, il rappelle qu'il y a toutes sortes de puissances cosmiques, les puissances méchantes et mâles, qui sont contre cette unité et qui aimeraient tout saccager, comme ils ont tout voulu faire. Mais il va dire, vous pouvez tenir fort, vous pouvez tenir ferme, parce que vous pouvez vous revêtir de ces pensées, vous pouvez vous revêtir de toutes les armes de Dieu, l'armure du chrétien, pour tenir ferme et rester stable, intègre, et des églises unies. Et donc là, vous avez vraiment un bel aperçu de ce que Paul veut pour l'église d'Éphèse, mais finalement, puisque c'est une lettre circulaire, ça s'applique à toutes les églises, et y compris l'église à Toulouse, pour que nous puissions vivre cette grande réunion, et nos assemblées, nos réunions en semaine, et le dimanche matin, sont là pour refléter la finalité de Dieu, cette grande réunion à laquelle il nous appelle, qui va être à sa gloire. Donc oui, tout le monde souhaite voir cette grande unité. Je trouve que c'est ça qui est si beau dans le message chrétien. Elle offre cette unité au monde, à l'univers, en disant qu'il n'y a que le Dieu de la Bible, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le produire par ce qu'il a fait pour nous, notamment à la croix. Alors vous aussi, vous êtes invités à la grande réunion. Alors ne ratez pas cette réunion-là.